J'aimerais parler ce matin sur les déserts de David. Dans 1 Samuel, chapitre 22, verset 1er, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi, se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab, et il dit au roi de Moab, « Permets-moi, je te prie, à mon père et à ma mère, de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Amen. Nous passons tous par des moments parfois difficiles, des moments où tout va mal, où les événements s'enchaînent contre nous. Et c'est un petit peu la situation de David. Un ami peut-être vous a trompé, vous a quitté. Votre employeur vous a licencié, il y a votre conjoint qui vous a quitté, qui vous a laissé avec les enfants tout seul. Et la situation n'est souvent pas favorable. Elle est difficile à surmonter et on va le voir pour David, ça va être un temps d'épreuve, un temps de souffrance même, un temps où il va connaître beaucoup de déboires, beaucoup d'opposition. Il faut rappeler peut-être l'histoire de David, qu'il a connu un grand succès dans un premier temps. Lorsqu'il a combattu le géant Goliath et qu'il l'a vaincu, ça a été des moments bénis, des moments glorieux. Il a été élevé, il s'est retrouvé à la cour du roi. Les gens chantaient en son honneur, Saül a tué ses 1000, mais David ses 10 000. Il avait beaucoup de choses favorables, on pourrait dire que le vent soufflait dans le bon sens. Et là, c'est facile de louer le Seigneur quand tout va bien. Et merci Seigneur pour ces moments où les événements sont favorables. Mais les vents ont tourné, et c'est aussi vrai pour nous. On n'est pas toujours dans un contexte favorable. Saül a commencé à avoir de la jalousie envers David. Il a commencé à le regarder d'un mauvais œil. Et il a vu chez lui comme... Peut-être si David voulait prendre sa place, il a commencé à le prendre en haine. Il a voulu le tuer à plusieurs reprises. Et donc, du coup, David a pris la fuite. Et j'aimerais qu'on s'intéresse à cette période-là de la vie de David, où il n'est plus au palais royal, mais il doit se cacher pour sauver sa vie. C'est une période qui a duré quand même 13 ans. Ce n'est pas rien dans une vie, 13 ans. C'est une période où il doit se cacher dans les déserts. Il doit se cacher dans les cavernes. Il doit sans arrêt trouver un nouveau lieu de sécurité. Il est dans une période de sa vie où il doit vraiment s'appuyer sur Dieu. Et c'est vrai que dans les déserts, on s'attend davantage à Dieu. Peut-être on prie davantage, on cherche davantage la face de Dieu. Mais je remarque une chose, c'est que malgré ce temps où on pourrait dire les choses vont très mal pour lui, eh bien, il n'a jamais songé à abandonner Dieu, mais il a constamment remis sa vie entre les mains de Dieu. Et ça aussi, c'est un exemple pour nous pendant ces 13 années. Ça n'a pas duré 6 mois ou un an. Pendant ces 13 années, on ne voit pas David se détourner de Dieu, abandonner Dieu, chercher ailleurs, dire « Dieu m'a abandonné ». Non, il a constamment mis sa vie entre les mains de Dieu. Il y a une constance, il y a une fidélité. Et Dieu l'a béni malgré tout et lui a donné les ressources, en fait, nécessaires pour traverser le désert. Il lui a donné l'eau nécessaire. Il y a quelques années de cela, il y a un homme qui était venu témoigner ici, un frère, qui nous a raconté son témoignage de conversion. En fait, il s'est converti dans un pays musulman. Il était lui-même musulman. Et il a dû fuir son pays pour sauver sa vie parce que sa propre famille voulait le tuer. Et à ce moment-là, il a pris la fuite dans le désert, dans le désert. Mais c'était une mort certaine dans le désert avec la chaleur qu'il faisait, avec l'immensité du désert qu'il fallait traverser pour sauver sa vie. Et il nous a raconté qu'en fait, il n'avait pris qu'une gourde, une gourde d'eau. et que ça a duré 40 jours, sa traversée du désert, eh bien, il a raconté que l'eau, sa gourde ne s'est jamais vidée pendant ces 40 jours. C'est un miracle. C'est un miracle. Il aurait dû mourir dans le désert. Il s'appelle Elias. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il était venu témoigner. Et donc, pendant le désert, en fait, il buvait, mais à chaque fois, il y avait de l'eau dans sa gourde. Et ce qui fait qu'il a pu traverser le désert et qu'il est arrivé en vie de l'autre côté. Ce qui nous montre que parfois nous passons par des déserts, mais que Dieu, dans sa grâce, eh bien, il pourvoit aux besoins qui sont les nôtres pendant ces temps de désert, comme Elias a pu le témoigner, comme David ici a pu le témoigner sur cette durée donc beaucoup plus longue, de 13 ans, 13 ans de désert, mais néanmoins, à chaque étape, Dieu a pourvu, Dieu a béni, Dieu l'a protégé. Alors, ces 13 ans, on va les résumer, on va les voir en quatre étapes. La première étape, c'est au chapitre 22 et au verset 1, c'est la caverne d'Adullam. La caverne d'Adullam. Il se passe trois choses dans cette caverne. Parce que là, d'abord, Dieu lui a permis de trouver un lieu de repos où se réfugier. À chaque fois, en fait, il va devoir trouver de nouveaux lieux de repos. La première chose qu'on voit, c'est que sa famille vient le soutenir alors qu'il est abandonné de tous. Et ça, c'est toujours encourageant quand vous vous retrouvez tout seul, qu'il y a quand même des frères et des sœurs qui viennent vous encourager, parce qu'il faut savoir qu'avec David, avec son père, ça ne s'est pas toujours bien passé. Le jour où Samuel est venu pour oindre le futur roi d'Israël, Isaïe, le père de David, a dit « c'est pas la peine de convoquer David ». Or, Samuel a dit « Faites-moi venir tous tes fils ». Mais voyez, Isaïe a pris une initiative, il a dit « David, ce n'est pas la peine, il gardera les brebis ». Et donc, il n'a pas considéré que c'était nécessaire, il pensait que ce serait certainement Eliab, le fils aîné, qui prendrait la suite. Donc, les choses n'étaient pas forcément très bonnes. Ensuite, avec Eliab, son frère aîné, ça s'est mal passé. Quand Eliab a vu que David était oint et pas lui, il a été jaloux, il lui en a voulu. Quand David s'est présenté sur le champ de bataille, Eliab le traite d'orgueilleux, enfin les relations étaient tendues. Mais aujourd'hui, sa famille a reconnu que David a reçu quelque chose de Dieu. Et alors que la situation est défavorable et qu'il pourrait le charger et être contre lui, ils viennent le soutenir. Et ça, c'est une bonne chose d'avoir le soutien. Et pour nous, c'est la famille, bien sûr, spirituelle. Alors peut-être vous avez été rejeté par votre famille le jour où vous avez donné votre cœur au Seigneur. Je connais des frères et sœurs. Quand ils ont donné leur cœur au Seigneur, leur famille les a abandonnés. Ils n'étaient plus invités au repas de famille, ou ils n'étaient plus invités le soir de Noël, parce qu'ils étaient devenus chrétiens. Il y a eu comme un rejet, il y a eu comme une mise à l'écart, et c'est difficile à vivre. David a connu ces temps de rejet. Mais Dieu a changé le cœur, en tout cas de sa famille, pour qu'il puisse revenir à lui. Dans Proverbes 21:1, il y a un beau verset qui montre comment Dieu travaille les cœurs. « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Il incline les cœurs. Il dirige les cœurs. Il change les circonstances. Peut-être aujourd'hui, votre famille est contre vous, mais Dieu incline les cœurs. Et nous savons que lui, il peut changer les situations. C'est difficile à vivre. Il y a des périodes où on ne comprend pas pourquoi on est rejeté. Mais néanmoins, nous remettons ces situations entre les mains de Dieu. Et lui, il inclinera les cœurs dans la bonne direction. Un deuxième élément dans ce texte, c'est que David, malgré, on va dire, la situation très difficile dans laquelle il est, il arrive à réunir autour de lui un groupe. Vous l'avez au verset 2. J'ai regardé dans d'autres traductions, il s'agissait de gens en difficulté, des endettés, des mécontents. Voilà, le genre de groupe qu'il avait réussi à rassembler. C'était pas l'élite, c'était pas la crème de la société, c'était les plus bas tombés, peut-être des gens qui déjà fuyaient Saül pour d'autres raisons. Mais en tout cas, il a réussi à en rassembler 400 autour de lui. Et il les a mobilisés. C'est important ce détail, parce qu'on va voir déjà chez David les qualités de meneur. Il va être un chef en Israël, et il arrive avec ses hommes à en faire des hommes d'élite qui deviendront plus tard les vaillants hommes de David. Vous les retrouverez dans le deuxième livre de Samuel, car il s'est entouré d'hommes qui vont devenir des guerriers, dont par exemple Joab qui va devenir le chef de son armée. Mais il fait partie, vous voyez, de cette équipe des 400 qui étaient des endettés, des mécontents, des gens en difficulté de toutes sortes. Mais quand David est devenu leur chef, il leur a inculqué des bonnes choses et des bons principes. Et ces hommes vont changer au contact de David. Certains auraient dit, avec des gens comme ça, on va pas pouvoir faire quelque chose parce qu'ils sont trop en difficulté, ils sont mécontents, ils sont trop difficiles, on ne peut rien faire avec des gens comme ça. Mais David avait une autre vision. Il avait développé des qualités de leader, meneur d'hommes. Et il s'est dit, avec ces hommes-là, si ils sont touchés par la grâce de Dieu, on va pouvoir faire des choses. Et il a eu confiance en eux, il les a formés, et ils sont devenus ces vaillants hommes à son service. Alors, ça, c'est un point important, parce que des fois, on attend que le contexte soit tout à fait favorable pour faire quelque chose. Mais déjà, on voit que David, avec les peu d'éléments qu'il avait, et tellement peu favorables, eh bien, il a commencé à se mettre en œuvre. Et il a travaillé avec bien les personnes que Dieu lui a mis autour de lui. Et il n'a pas attendu d'être déjà roi pour pouvoir faire quelque chose. Et ça nous parle aussi à nous, eh bien, que nous pouvons commencer à faire l'œuvre de Dieu, à servir avec les moyens que nous avons, qui ne sont peut-être pas encore l'idéal. Mais néanmoins, eh bien, commençons à travailler, à servir là où Dieu nous a placés, dans le champ de Dieu. Et Dieu bénira, et Dieu transformera, et Dieu agira. Et c'est ce qui s'est passé au contact de David. Ces gens qui n'étaient pas des modèles sont devenus des meneurs eux-mêmes, ils sont devenus des leaders par la suite, des meneurs d'hommes. Il y a ici ces futurs responsables des chefs militaires qui vont conduire son armée dans la suite. Et tout cela, ça s'est fait progressivement. J'ai pensé à ce texte de Paul à Timothée, car Timothée était aussi un leader dans l'Église, un de ses meneurs. Et Paul lui dit dans 1 Timothée 4:12 « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. » Et je retiens ces mots où Paul, déjà qui se présentait à Timothée comme un modèle, il lui dit « Mais toi aussi, sois un modèle pour les fidèles, pour les chrétiens de l'Église dont tu t'occupes. Dans tes paroles, veille à ce que tu dis, mais aussi dans ton comportement. » Sois juste, et puis dans l'amour, la pureté, et tout cela va avoir un impact sur l'Église où Timothée est serviteur de Dieu, et ça va permettre aussi de susciter eh bien, d'autres serviteurs, parce que le but de Paul au travers Timothée, il lui dit, ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles, il faut trouver des gens qui sont capables de le transmettre à d'autres, cette idée de transmission qui passe par le modèle. Et puis le troisième élément que je vois dans cette première caverne, ce premier désert de David, malgré la situation qui lui est défavorable, verset 3, il va chercher le bien de ses parents en les mettant en sécurité. Parce que les parents étaient en danger du fait que Saül voulait tuer David. Il pouvait très bien se venger sur ses parents, donc il fallait trouver une solution pour les mettre en sécurité. Donc il ne pense pas qu'à lui-même, il n'est pas dans cette vision égoïste, il pense à sa famille, il pense à ses bien-aimés, et ça nous parle de penser aux autres et de ne pas être centré sur nous-mêmes, de penser à notre famille. 1 Timothée 5:8, c'est Paul qui dit à Timothée, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Pensons à notre famille, à nos parents, nos enfants, et nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour leur sécurité, pour leur bien, et pour qu'ils puissent s'épanouir. On voit chez David donc toute cette attitude de générosité, cette attitude où on voit qu'il a des qualités déjà de meneur. Il n'est pas encore roi, mais déjà il se prépare à devenir roi. Et ces temps de désert vont être pour lui un temps de formation. Mais ça continue au chapitre 23, on va balayer ces 13 années, hein, ça va aller assez vite en fait. Dans la Bible, quelquefois, les années passent d'un chapitre à l'autre. On va au chapitre 23 et au verset 13, un autre désert. C'est le désert de Ziph. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et ils s'en allèrent où ils purent. David informait plutôt Saül informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans les lieux forts et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang après toi. » Saül, mon père, le sait bien. Aussi, ils firent tous deux alliance devant l'Éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Amen. Un autre désert où David a trouvé refuge. Déjà, il était dans la ville de Keïla, c'est le contexte juste un petit peu avant. Mais Saül, apprenant qu'il était dans cette ville, vient avec toute une troupe, une armée de plusieurs milliers de soldats, pour encercler la ville et le faire prisonnier. À ce moment, David a déjà maintenant 600 hommes, donc on voit qu'il a continué dans les progrès. Malgré l'opposition, il progresse, ce qui montre que la main de Dieu est quand même avec lui. Il est vraiment dans un contexte défavorable. Et néanmoins, Dieu bénit David. Parce que Dieu peut nous bénir dans nos déserts, dans nos moments de difficulté. Alors, malgré l'armée de Saül, il se dit, si je reste ici, je vais être fait prisonnier. Et il s'en va dans un autre désert, à Ziph. La Bible dit, il part où il peut pour sauver sa vie, dans les refuges escarpés, dans les montagnes. Et c'est là qu'il va composer des psaumes. Je vous donne l'exemple du psaume 54. Quelquefois, c'est bien de connaître le contexte dans lequel ont été écrits les psaumes, car ils sont tous les uns à la suite des autres. Mais en réalité, les psaumes de David ont été écrits dans des moments de sa vie qui n'étaient pas faciles, certains. Ici, psaume 54, il le dit au début, au chef des chantres avec instrument à cordes, cantique de David, il est dans un désert. Lorsque les Ziphiens, donc on est dans le désert de Ziph, vinrent dire à Saül, David n'est-il pas parmi nous? Alors voilà ce qu'il écrit dans son désert. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Il me délivre de toute détresse, car mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Alors, il est vraiment dans la situation de difficulté quand il écrit. Et il reçoit ses psaumes inspirés. Il est vraiment entouré d'un ennemi qui veut sa perte. Et néanmoins, ce qui est remarquable chez David, c'est que loin d'abandonner le Seigneur, il va retrouver dans la prière, dans la louange, dans la reconnaissance, bien que son secours est en Dieu. Il dit, le secours n'est pas dans mes 600 hommes qui m'entourent. Il dit, le secours est en Dieu. Dieu est ma délivrance. Il interviendra en ma faveur. C'est pas facile à dire quand on est dans la situation dans laquelle où il se trouve. Il le dit par la foi. Il sait que l'armée en face est plus puissante. Mais il proclame, je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Est-ce que nous pouvons dire que Dieu est favorable alors que tout est défavorable autour de nous? Eh oui, on le dit dans la foi. Dieu m'est favorable. Il fera tourner la situation en ma faveur. Si nous sommes, bien sûr, dans la volonté de Dieu, si nous agissons conformément à sa parole. Il sait que Saül est plus puissant. Il sait que Saül peut le vaincre, mais il connaît Dieu et nous savons que Dieu est plus puissant que tous nos ennemis, que tous nos adversaires. Et ça, c'est une certitude, une réalité qui est là dans notre cœur. Il trouve l'occasion de louer Dieu dans son désert. Est-ce que nous pouvons le faire aussi? Ou est-ce que dans nos déserts, nous allons dire, Seigneur, tu m'as abandonné, j'ai eu tort de te faire confiance, ça ne sert plus à rien de venir à l'église. Parfois, certains réagissent comme ça et disent, mais moi j'abandonne. Tu n'as pas répondu à mes prières? Non. Il a une autre attitude. Il a cette attitude que Dieu va va tout changer dans sa vie. Je discutais avec Soël il y a mardi dernier. Et vous savez qu'il est à l'hôpital suite à une maladie qui est brutalement tombée sur lui. Mais il reste confiant. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, moi j'ai pris, parce que je lui dis, mais ça va, tu tiens bon moralement et tout. Il dit, oui, je tiens bon. Il dit, moi j'ai pris un billet d'aller simple et sans retour. Donc ça veut dire, je suivrai le Seigneur, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et dans nos déserts, nous devons avoir la même attitude. Je suivrai le Seigneur, quoi qu'il arrive. C'est un billet, aller simple. Il n'y a pas de retour en arrière. On ne retournera pas dans le monde. Il trouve l'occasion de louer Dieu. Et nous devons aussi, et ce n'est pas facile, il faut le reconnaître, hein, ce n'est pas naturel, eh bien, trouver dans nos déserts l'occasion de dire « Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta grâce », conserver l'esprit de reconnaissance. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Ça, c'est un verset que nous devons vraiment mettre en pratique. « Rendez grâce quand tout va bien ». C'est comme ça ? Non ? Rendez grâce le dimanche matin. Voilà. Rendez grâce en toute chose. Moi, j'aimerais dire, rendez grâce dans vos déserts. Rendez grâce dans vos déserts. Parce que même dans les déserts, nous pouvons trouver que la main de Dieu est là et qu'il agit en notre faveur. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est sa volonté que nous puissions lui rendre grâce. Le bénir. Je dis, ce n'est pas naturel. C'est naturellement des pensées de peut-être des sentiments, on va dire, d'injustice, de dire « Dieu, tu m'as abandonné ». Quelquefois, nous le disons aussi, et on peut le dire. Mais néanmoins, n'oublions pas de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, pour sa bonté, car c'est la volonté de Dieu. Et David l'a compris. Il ne dit pas « tout est facile ». Il ne dit pas que ça y est, c'est terminé. Mais il dit, eh bien, je sais que tu agiras en ma faveur. Il garde cette confiance que Dieu dirige toutes choses. Et en fait, au verset 14, on a vu que Dieu ne permet pas à Saül de rattraper David. C'est au verset 14. Il est dit que Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. On voit quand même que c'est Dieu qui dirige toute chose. Et qu'il y en a qui veulent peut-être du mal, qui veulent détruire, qui veulent abattre, mais Dieu ne permet pas. Dieu permet certaines choses et il ne permet pas d'autres. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8, c'est aussi pour nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans cette série de versets, il y a toujours un mais. Nous sommes pressés de toute manière, mais voilà, Dieu veille. On n'est pas réduit à l'extrémité. Dieu ne permet pas. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir, parce que Dieu ne le permet pas. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Là encore, voyons que Dieu veille. Nous sommes abattus, mais non perdus. Et Paul fait toute une série comme cela de versets qui nous montrent que, comme David, il était pourchassé, mais l'Éternel a veillé à ce qu'il ne soit pas rejoint par son ennemi et il l'a mis au large. La visite de Jonathan, ici, au verset 15, a beaucoup fortifié David parce qu'il était quand même dans une situation très délicate. La Bible dit qu'en voyant Jonathan, il a été fortifié dans sa foi. Il reprit vraiment, il se fortifia dans la confiance en Dieu, sachant que Jonathan a quand même pris un risque très élevé. Car Jonathan, c'est le fils de Saül. Saül donc voulait tuer David et c'était comme un acte de traîtrise de la part de Jonathan. En tout cas, vu du côté de Saül, il considérait cela comme un acte de traîtrise. Il n'a pas été au courant de cela. Mais néanmoins, Jonathan voulait maintenir la fidélité envers son ami David, même dans les temps difficiles, même quand les vents sont contraires. Et c'est bien d'être assez courageux pour maintenir les vérités spirituelles alors que toutes les paramètres sont négatifs. Jonathan, bien sûr, il aimait son père, il le respectait, mais en même temps, il ne pouvait pas lui obéir concernant David parce que David, c'était loin de Dieu, c'était celui que Dieu avait choisi pour régner Et il est resté fidèle jusqu'au bout. Et on a besoin comme ça de frères et sœurs qui prennent des positions. Voyez, dans Actes 28, verset 15, il est question de Paul qui est quand même en situation très difficile. Il est prisonnier, il va à Rome pour plaider sa cause, mais en même temps, il est enchaîné, il va se retrouver donc en prison. Et pour l'accompagner dans les derniers kilomètres, il y a des frères qui sont venus à sa rencontre, Actes 28, 15. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Et ces frères, ça va le fortifier. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Il avait un moment quand même subi cette tempête juste un petit peu avant où le bateau avait coulé. Ils avaient été sauvés en rejoignant le rivage. Ils avaient pu sauver leur vie. Toute la cargaison était perdue, mais toutes les personnes du navire, y compris Paul, étaient sauvées. Mais néanmoins, les temps étaient difficiles et c'était compliqué. Et là, il arrive à Rome, il sait qu'il va en prison. Et il avait besoin de personnes pour l'encourager, et il a trouvé auprès de ses frères, eh bien des frères qui l'ont encouragé, et ça a été un temps béni. Alors, faisons-le aussi, nous, en tant que chrétiens, encourageons-nous, exhortons-nous, dit la parole, les uns les autres. Je continue un autre désert au chapitre 23, et maintenant au verset 25. Car David ne peut pas rester au même endroit, il va maintenant fuir au désert de Maon. Verset 25, Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et on en informa David, qui descendit le rocher et s'arrêta dans le désert de Maon. Saül l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David. David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi on appela ce lieu « Sela Amakelot ». Donc, un autre élément, on est toujours dans la même dynamique, c'est-à-dire Saül, sans relâche, poursuivra d'ailleurs jusqu'au bout David, sans jamais pouvoir l'arrêter. Il déploie toujours ses efforts, toujours une armée nombreuse. Il a réussi quand même à l'encercler. On peut dire que là, c'est le moment décisif. Tout est fini pour David. Il est perdu. C'est la dernière extrémité. D'ailleurs, Saül pense que la victoire est acquise, sauf que Dieu est toujours au contrôle dans cette situation. On est parfois acculé, en situation sans issue, mais un imprévu survient. Une armée des Philistins envahit le pays. Saül, qui était sur le point d'attraper David, il le cherche depuis tant d'années, il doit fuir et partir pour sauver son pays qui est envahi par les Philistins. Et donc, ça, ce n'était pas prévu, mais vous voyez, Dieu suscite des événements qui contrecarrent les plans, les projets des hommes. Dieu agit parfois au dernier moment. Et peut-être David se voyait perdu à ce moment-là, mais vous voyez, il se confiait en Dieu, il ne pouvait rien faire. Mais par la prière, et c'est ce que nous disons, c'est la prière de la foi. Dans la prière de la foi, David se confie en Dieu, et Dieu suscite un peuple étranger qui va semer le désordre dans le pays, et tout d'un coup, Saül change ses projets. Ce n'est pas David qui peut agir, mais Dieu peut agir, Dieu peut tout faire, Dieu peut changer les circonstances. Un imprévu, et les plans de Saül sont bouleversés. Ce qui est stressant pour nous, c'est que souvent Dieu agit au dernier moment. Et il ne nous dit pas à l'avance, eh bien, je vais faire ça, demain je vais faire ça, après-demain je vais faire ça, nous ne savons pas. Et nous avançons au fur et à mesure, comme David, et nous voyons la main de Dieu agir, mais nous ne savons pas quand il va agir, ni comment il va agir. Mais néanmoins, à chaque instant, la vie de David n'est pas entre les mains de Saül, elle est toujours entre les mains de Dieu jusqu'au bout. Car il est dit au psaume 118, verset 6, c'est le psalmiste qui dit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Les hommes s'étaient ligués pour arrêter David, mais finalement, que peuvent-ils faire si Dieu est avec nous? Qui sera contre nous, dit Paul. Notre vie, elle est entre les mains de Dieu. Alors même si le roi a fait un plan pour détruire David, eh bien Saül et son armée ne pourront pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Dieu a un plan merveilleux pour David et il va s'accomplir. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Il y a un plan de Dieu sur votre vie, mais regardez aujourd'hui, vous dites « je vis tout le contraire de ce que Dieu me dit ». Il a un plan pour ma vie, oui, mais aujourd'hui, je vis le désert. C'est pas ce que Dieu m'a dit encore. Oui, mais c'était le cas pour David. Dieu avait un plan pour sa vie, mais il pouvait dire « aujourd'hui, je vis tout le contraire de ce que Dieu dit ». Oui, mais c'est momentané. Et Dieu changera le mal en bien. Alors, ce qui est déstabilisant, c'est que nos yeux nous disent le contraire de ce que Dieu nous dit. Nos yeux nous disent, tu vois, David, Saül, il sera toujours contre toi, il finira par t'atteindre, et finalement tu seras perdu. Ça, c'est nos yeux. Mais dans la foi, David dit, je fais confiance à Dieu, je crois qu'il me protégera, et je crois qu'il pourvoira et que son plan s'accomplira. Et nous ne devons pas marcher par la vue, frères et sœurs, mais nous devons marcher par la foi. Et que Dieu nous aide, parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Naturellement, on va être découragé. Mais spirituellement, on peut être encouragé dans la foi. Je termine avec un dernier désert, c'est au chapitre 24. Et c'est la caverne d'En-Gedi. À nouveau, David doit fuir ailleurs. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici David est dans le désert d'En-Gedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouva une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Quand on lit le livre de Samuel, on voit que Saül sera l'ennemi de David toute sa vie, jusqu'à sa mort. Il n'y a jamais eu de paix entre Saül et David. Non pas de la faute de David, mais de la faute de l'entêtement de Saül qui n'a jamais voulu changer. Saül était animé d'un autre esprit. On sait qu'il y a un esprit mauvais qui venait sur lui, qui l'agitait et qui le poussait à agir mal. Et sans relâche, il a voulu tuer David, le poursuivre partout. Mais regardez, David, au contraire, il illustre la grâce, la bonté de Dieu, parce qu'il aurait pu tuer ici Saül, mais il n'a pas voulu le faire pour ne pas porter atteinte à loin de l'Éternel. C'est arrivé à deux reprises où David aurait pu tuer Saül. La première, c'est dans la caverne d'En-Gedi, alors que les hommes de Saül le poussaient à tuer. Les hommes plutôt de David poussaient David à tuer Saül, eh bien, il a dit non. Non. Faisons preuve de bonté envers lui. Et il a manifesté la grâce de Dieu. Saül, un peu plus loin, le reconnaît. Et il dit, tu as été bon envers moi. Il a reconnu, mais il n'a pas changé d'attitude. Pourquoi ? Parce que David illustre la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'a dit David ? Il dit de Saül, c'est loin de l'Éternel, c'est lui que Dieu a choisi. Je ne porterai pas ma main sur lui. Soit il mourra de vieillesse, soit il mourra au combat, mais en tout cas, sa vie est entre les mains de Dieu, et moi, je reste pur de ces choses. Il s'est tenu à l'écart. Vous voyez, il n'est pas tombé dans le piège de la vengeance, de régler ses comptes, mais il a laissé Dieu travailler pour lui. Le seul souci de Saül qui est égoïste, c'est il dit un peu plus loin, mais il dit à David, en reconnaissant, il reconnaît qu'il a été épargné, mais « Tu ne détruiras pas ma postérité, tu ne retrancheras pas mon nom, promets-le-moi. » Donc son souci, c'est uniquement sa personne, sa descendance, ses intérêts personnels. On voit qu'il n'est pas du tout dans l'esprit de Dieu, il ne comprend pas le plan de Dieu, mais il vit dans la désobéissance. Et la deuxième fois où David aurait pu tuer Saül, c'est à nouveau dans le désert de Ziph, un peu plus loin, alors que le camp de Saül est endormi profondément, il va aller dans le camp avec un de ses soldats qui s'appelait Abishai. Et là, ils vont prendre la cruche et la lance. Et là, Abishai lui dit, mais là, tue-le, tu peux le tuer. Saül est à ta merci. Et non, il a dit, on lui fait encore grâce. Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. À plusieurs reprises, donc, David a exercé la miséricorde, la grâce de Dieu, la compassion, tandis que Saül était profondément animé de haine. On a vu en quelques minutes, ces 13 années en fait, qui se sont produites entre l'onction de David et son règne effectif. Ça a été un temps de désert. Après, il est allé chez les Philistins, il a dû se cacher jusqu'à la mort de Saül, en fait, il a dû fuir. Mais la leçon qu'on peut tirer, c'est que malgré les difficultés, en tout cas, David n'a jamais lâché la main du Seigneur. Et ça, ça doit être pour nous un modèle, que quels que soient les déserts, les situations, les vents contraires, eh bien, ne lâchons pas la main du Seigneur. Et même dans ces sortes de déserts, ça n'a pas été du temps perdu pour David. Il a été un temps à chercher Dieu. Il a composé des psaumes. On en a lu un, mais il y en a beaucoup d'autres qu'il a composés dans ces 13 années de désert. Il a été inspiré par Dieu. David a appris à dépendre de Dieu. Il a cherché la face de Dieu davantage dans ses déserts. Il a développé des qualités de chef dans ses déserts. Il a pu former des leaders dans ses déserts. Ce sont des hommes qui deviendront des vaillants hommes, comme Joab, comme Abishai, j'en ai parlé juste avant, comme Azaël, les trois frères, qui vont devenir des chefs militaires de son armée par la suite. Et tout cela, ça s'est fait en fait dans un temps de désert. C'est pourquoi il a raison de bénir le Seigneur aussi pour ces temps où il traverse le désert, parce qu'il ne contrôle pas, il ne maîtrise pas la situation. Mais alors même que nous sommes dans le désert peut-être aujourd'hui, eh bien nous pouvons quand même faire des choses pour le Seigneur et travailler pour Dieu, faire l'œuvre de Dieu, prier, bénir le Seigneur et nous attendre à sa grâce. J'aimerais que nous prions un instant. J'invite les musiciens à s'approcher, s'il vous plaît, pour un dernier chant. Merci encore, Seigneur, pour ta fidélité. Parce que dans les temps de désert que nous pouvons connaître, nous savons que ce ne sont pas des temps inutiles. Mais même alors que tout est contre nous, Seigneur, tu changes le mal en bien, tu transformes les circonstances défavorables, tu agis. Je te prie pour celui ou celle qui est venu ce matin, comme traversant ce désert aride, sans eau, sec. Et Seigneur, comme David, nous voulons te rendre grâce de ce que tu nous as protégés, tu nous as secourus, de ce que dans ces temps de désert, nous pouvons nous tourner vers toi et dire tu es notre Dieu, tu interviens en notre faveur, tu nous seras favorable. Oui, tu changeras les temps, les circonstances. Quelquefois, tu agis au dernier moment, c'est vrai. Mais nous pouvons dire que tu agis et que ta main est à l'œuvre. Seigneur, même parfois, tu n'agis pas comme nous pensons, mais ton plan est toujours meilleur que le nôtre. Oui, Seigneur, prends nos vies. Et nous te rendons gloire dans le saint nom de Jésus. Amen.